Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Bonjour à tous. Vous arrive-t-il de vous promener dans la nature? Que regardez-vous alors? Le ciel? Les oiseaux? Votre compagnon de balade? La pointe de vos chaussures? Et si vous ouvriez un peu plus les yeux, vous verriez alors certains trésors, souvent ignorés, carottes sauvages, mélilots, myrrhe odorante, reine des prés, rumex alpin, ou tout simplement de jeunes pousses d'ortie. De quoi vous faire un bon gueuleton. Car oui, ces plantes se mangent et possèdent parfois un arôme subtil qui peut agrémenter de manière originale vos plats les plus variés et même vos confitures. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui un spécialiste de ces précieux produits de la nature. Bonjour François Couplan.
Bonjour.
Un spécialiste et même deux, puisque vous êtes venu avec votre épouse Keiko, alors la spécialiste japonaise. Bonjour Keiko.
Bonjour.
Vous êtes cuisinière, Keiko?
Oui.
Et vous êtes aussi spécialiste, par la force des choses, puisque vous êtes mariée à François Couplan, de ces plantes sauvages.
Oui, au Japon, oui, j'ai utilisé beaucoup de plantes sauvages déjà. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses.
Oui, c'est ce qu'il faut dire. On s'est rencontrés par les plantes sauvages, mais c'est les plantes sauvages qui nous ont rapprochés. C'est pas moi qui les rapprochais, les plantes sauvages. Parce qu'au Japon, traditionnellement, on mange des plantes sauvages de façon complètement normale, à l'opposé de ce qui se passe en Europe pour des raisons historico-sociales extrêmement précises et qui méritent d'être un petit peu creusées, je trouve.
Nous reviendrons sur ces raisons-là, parce qu'ici, on les arrache, les mauvaises herbes.
Voilà, c'était à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça.
Peut-être qu'on ne devrait pas, et vous le dites dans le livre Confiture inattendue, entre autres, et dans tous vos livres, François Couplan, on peut les manger, ces mauvaises herbes, au lieu de les arracher, on peut les cultiver.
C'est la première des choses, je veux dire, la relation avec notre environnement passe par la nutrition. Un être vivant, il doit subvenir à ses besoins avant même de penser à se reproduire, donc c'est quand même la première des choses. Et logiquement, eh bien, l'être humain consomme ce que la nature lui offre, directement. L'être humain, il y a 3 millions d'années, Homo sapiens, il y a 200 000 ans, l'agriculture, elle a 10 000 ans. Vous voyez? Faites le calcul, c'est un peu compliqué pour moi.
Je vais réfléchir.
Mais ça veut dire quand même que depuis longtemps, on n'a pas tous ces OGM, tous ces organismes génétiquement modifiés depuis le départ, puisqu'à partir du moment où on sélectionne volontairement des plantes qu'on va cultiver, c'est ça exactement, on sélectionne le génome. Donc on a déjà affaire à des OGM.
Ça fait que 10 000 ans qu'on a ça.
C'est que 10 000 ans qu'on a ça.
Mais ça fait quand même plusieurs millions d'années qu'on mange.
Oui, même encore plus d'ailleurs, puisque depuis que les premières petites bestioles sont sur Terre, elles se nourrissent. Et donc voilà, c'est un choix que nous avons. C'est un choix que nous avons et un choix que nous ne pouvons généralement pas faire par méconnaissance et surtout par peur et surtout par, par un certain rapport avec le statut social qui est en train de changer. Heureusement, maintenant, ça bouge et c'est pas mal. Mais c'est resté bloqué longtemps.
On va en reparler de ce statut social, de cette société occidentale dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous mangeons aussi. Et de temps en temps aussi des plantes, des orties par exemple, ça c'est la plus connue. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut découvrir dans votre dernier livre, Confitures inattendues. C'est en fait une nouvelle édition de Toutes les confitures sont dans la nature, qui était sortie il y a un bon petit moment déjà.
Ouais,
c'est paru chez Favre. Il y a aussi Étonnantes plantes à cultiver vous-même, que vous avez écrit avec Émeric Lazarin, qui est sorti aux éditions du Belvédère. Alors, toujours autour des plantes, vous en avez plusieurs, de nombreux livres. Et puis, vous animez des stages de terrain aussi, François Couplan.
Oui, bien sûr. The proof is in the pudding, si je peux me permettre. Parce que je suis également anglophone.
Apparemment.
Je rentre de Malaisie, j'ai donné une conférence en anglais sur la consommation et l'utilisation des plantes sauvages dans les sociétés malaisiennes. Fort intéressant, là aussi, il y a plein de choses à raconter. Mais
c'est bien d'aller sur le terrain pour goûter, pour cueillir.
Voilà, c'est bien de parler, on parle, là on est dans un endroit où on est à peu près à 0% de nature, à part qu'on voit des arbres.
On voit des arbres par la fenêtre du studio.
Mais on peut pas les toucher, or c'est ça qui est important. C'est pas seulement parler, évidemment, c'est pas seulement regarder, c'est pas seulement lire des livres, c'est très bien, mais c'est de vivre, quoi. Et vivre, ma foi, on perçoit la vie par tous nos sens, par le toucher, par l'odorat, par le goût. Louis, avec les plantes, ça se fait aussi, mais c'est un petit peu moins...
Peut-être quand on écrase la feuille dans sa main, puis qu'on l'entend craquer ou pas.
Mais justement, avec mes élèves, parce que alors, moi j'ai plusieurs types d'activités, des stages pour le grand public, d'une part que j'anime depuis 45 ans, à peu près, ça...
Le prochain, c'est ce week-end, mais j'imagine qu'il est complet.
Non, alors le prochain, ce week-end justement, là, c'est mon, comment dire, c'est mon école.
Petit j'ai monté... groupe d'étudiants.
Ouais, c'est pas si petit groupe que ça, quand même. C'est toujours une vingtaine de personnes. Hein. Je veux dire, c'est bien. Il faut qu'il y ait une dynamique, il faut que ça bouge, quoi. Faut que les gens s'expriment et puis qu'il se passe des choses avec les plantes, mais aussi entre les gens. C'est de l'ethnobotanique, quoi. C'est le rapport entre l'homme et la
mais
nature.
Mais nous, qui vous écoutons, on peut aussi vous rejoindre, par exemple, à Massonance, du côté de Fribourg.
Oui, alors là c'est plutôt Françoise Marmy qui donne les cours à Massonance et qui le fait fort bien d'ailleurs. On se répartit un petit peu les zones géographiques.
Vous êtes toute une équipe, hein, il faut le préciser. On peut le voir sur le site www.couplan.com.
Quand même, oui, ça fait quand même un certain temps qu'on fait ça. Et toujours est-il que, voilà, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les plantes. Et je dis bien de rencontrer. Pour moi, les plantes sont des êtres vivants, hein. Pas comme, enfin, je leur dis pas bonjour en leur serrant la feuille. Mais, voilà, j'ai une relation avec les plantes et tout le monde peut, et à mon avis, devrait développer une relation avec les plantes parce que c'est quelque chose de vraiment très important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Nous, on vit dans un système, maintenant uniquement humain, et quand on parlait tout à l'heure de l'alimentation, notre alimentation elle est uniquement à base de produits transformés par l'être humain. Ça pose de gros problèmes environnementaux d'une part, on s'en rend compte, mais aussi de gros problèmes psychologiques parce que on est coupé. Or, l'idée pour vivre bien, c'est d'être relié, quoi. Et c'est pas difficile à faire, justement, les plantes nous aident énormément à ça. Et c'est vrai que dans nos stages, on commence ce genre de choses, ramasser les plantes, les cuisiner, les manger ensemble, les déguster. C'est une vraie communion au sens originel du terme, c'est-à-dire une union avec bien autre chose que simplement l'être humain. C'est rien de spécial, c'est rien de mystique, c'est rien de compliqué, surtout pour moi, la vie, elle est d'une simplicité absolue. Plus ça va, plus c'est simple, et ça permet de... Comment dire, faire péter un petit peu cet abcès qui fait qu'on se pose beaucoup trop de problèmes.
Et cette idée préconçue qu'il faut aller vivre dans une grotte au fin fond de la montagne pour pouvoir trouver des plantes qu'on peut manger, parce qu'on les trouve même en ville, on le voit dans Confiture Inattendue.
Oui, bien sûr.
On les trouve partout.
Ah ben, à l'époque où j'avais ma rubrique avec Christine Magro, là, dans votre
bien
bonne
sûr,
maison,
dans Monsieur Jardin,
n'est-ce pas? Eh bien, ça nous est arrivé d'aller là juste sur le parking
de la radio,
à côté, on voit, et de faire toute l'émission là-dessus. Et de même faire plusieurs émissions là-dessus, parce qu'il y a tellement de plantes.
Il y en a, alors j'ai noté, hein, c'est vous qui
dites
dans votre
Lausanne, d'ailleurs, est une excellente ville pour ça. Genève aussi, les villes suisses sont parfaites pour ça.
On est très proche de la campagne, évidemment, aussi.
Non, mais même en plein cœur des villes, vraiment, en plein cœur
tout
des villes. Quoi. Il y a des endroits où il n'y a pas une pollution exagérée. Bon, Keiko, quand elle donne ses ateliers à Paris, elle donne des cours et des ateliers de cuisine japonaise, également à Paris, elle va chercher les plantes au Bois de Boulogne. Et au Bois de Boulogne, il y a des endroits qui sont pas plus pollués que les légumes bio qu'on achète sur le marché Raspail le dimanche
en
matin.
Ville, entre un peu plus cher.
Insister là-dessus aussi. Les plantes sauvages, c'est pas cher.
Ouais. Non, c'est même gratuit. On peut les ramasser comme ça. Alors il faut les connaître. Hein, en même temps, j'ai noté qu'il y a entre 800 et 1000 espèces comestibles en Suisse.
À peu près, oui. On peut dire ça, oui.
Et 50 espèces toxiques quand même. Donc faut faire attention aussi quand on se balade.
Voilà, faut faire attention.
On peut pas manger n'importe quoi. Si on prend un brin de muguet pour un brin d'ail d'ours, par exemple, c'est embêtant.
C'est très embêtant. Enfin, quand vous conduisez une voiture, vous savez, quand vous voyez un petit panneau rouge et blanc, il ne faut pas aller par là, ou des choses comme ça. Bon, avec les plantes, c'est pareil, vous n'avez pas un petit panneau rouge et blanc sur la plante, mais si vous apprenez à la connaître, et ce n'est pas compliqué, je veux dire, c'est à la portée de n'importe quel gamin, de faire ça. Moi, je faisais ça avec mes enfants. Quand ils étaient petits, ils savaient très bien reconnaître les plantes toxiques.
D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu, hein, de transmettre ce savoir de
grand-mère. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Alors ça, oui. Bon.
Et vous êtes là.
Il y a des gens
qui
ont encore la chance d'avoir des parents qui connaissent ça, n'est-ce pas?
Ça arrive. Parfois.
Ouais. C'est bien.
Vous avez une confiture préférée, François Couplan? Je m'adresse aussi à vous, Keiko, puisque vous êtes là. Parmi ces confitures inattendues.
Par exemple, la confiture d'orange amère,
tout simplement.
Confiture d'orange amère, mais c'est parce qu'on a une amie, une amie japonaise en Corse qui est mariée avec un corset. Chaque fois qu'on y va, on rapporte plein d'orange amère. Et parce qu'autrement, ils les jettent, les gens, quoi. Ils cultivent ces orangers et pourtant, ils jettent les amères. Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Moi, l'une de mes favorites, c'est simple. C'est la confiture de fraise avec la reine des prés. Vous voyez?
On peut manger la reine des prés. Hein. C'est vrai qu'on se dit, oulala, c'est une grande fleur blanche, on en voit partout hein, dans les prés en été.
Mmh. En été, ouais, c'est un peu saisonnier.
Je ne savais pas qu'on pouvait la manger. Eh bien, on peut la manger. Ça a un goût très subtil, apparemment. Je me réjouis de goûter.
Et en même temps, on soigne parce que ça contient du salicylate de méthyle qui est à l'origine de l'aspirine. Donc, anti-inflammatoire, anti-rhume, anti-crève, anti-arthrite. Mmh. Enfin, c'est fabuleux. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Moi, je trouve, c'est-à-dire que quand on consomme des plantes sauvages, c'est pas juste comme...
C'est pas pour faire joli dans l'assiette avec une capucine sur la salade.
Alors, si ça fait joli, tant mieux. Ça a du goût aussi, mais en même temps, ça soigne. Mmh. Ça soigne, et d'un point de vue nutritionnel, ça apporte plein de choses, et finalement, tous les éléments dont on a besoin. De toute façon, c'est logique, on est fait pour manger des plantes sauvages, puisque avant 10 000 ans, on se nourrissait de chasse aussi, évidemment, oui, mais aussi, et surtout, avant tout, dans les pays suffisamment tempérés, de cueillettes. Mmh. De cueillettes. C'est toujours le cas avec tous les chasseurs-cueilleurs qu'on connaît. Mmh. C'est avant tout de la cueillette. Et beaucoup de cueillettes de feuilles, quoi. Mmh. Et c'est un truc qui est juste fondamental et qui fait du bien. C'est hyper facile d'être en bonne santé. Et je veux dire, on parle de toutes ces histoires de coûts de la santé, de machin comme ça. Mais je veux dire, si on était en bonne santé, ce serait quand même vachement plus simple. Ce serait gênant pour les médecins, ce serait gênant pour les hôpitaux, ce serait gênant pour les laboratoires pharmaceutiques et tous ces gens-là. Mmh. Je pleure pour eux, déjà, mais n'empêche que ça irait vachement mieux pour le reste du monde, qui forme quand même la majorité de la population.
Allez manger des plantes, au lieu de prendre de l'aspirine que vous achetez à la pharmacie,
par exemple.
Ça vous dirait d'écouter une chanson de L'Udéal? Ça vous va bien, je trouve. C'est Chevaux Sauvages. L'Udéal, c'est lui qui chante les Chevaux Sauvages.
Chevaux.
Chevaux sauvages.
Ah d'accord, ok, c'est plutôt de l'animal que de la plante, c'est de la zoologie, mais...
On peut courir à côté et ramasser des plantes.
Ouf.
heures, entre nous soit dit, Mélanie Croubalian sur la première.
Rien ne vaut la liberté et les longs galops d'été à des vallées sans fin, les ruisseaux argentés. Rien, rien ne vaut la liberté et sans qu'aucun cavalier ne m'emmène loin de mes belles vallées. Mais j'ai l'authentique sang chaud des chevaux sauvages, et ce n'est pas au lasso qu'on m'amadouera. Rien, rien ne vaut la liberté, même ma terre est fréquentée. J'ai flairé des fantassins, écouté leurs barbelés. Rien, non rien ne vaut la liberté, et ceux qui veulent me loter ont tué les derniers indiens et veulent déjà m'avaler. Mais j'ai l'authentique sang chaud des chevaux sauvages, et ce n'est pas au lasso qu'on m'amadouera. Mais j'ai l'authentique sang chaud des chevaux sauvages, et ce n'est pas au lasso qu'on m'amadouera. Mais j'ai l'authentique sang chaud des chevaux sauvages, et ce n'est pas au lasso qu'on m'amadouera.
Il a l'authentique sang chaud des chevaux sauvages. C'est pas facile à dire en plus.
Sang chaud, c'est comme Sancho, c'est Zantoxylum japonicum. C'est une plante sauvage qu'on cueille, qu'on cueille très, très fréquemment au Japon comme condiment. Au...
Vous voyez, on n'en sort pas des plantes sauvages, François Couplan. Vous êtes d'accord, Keiko, parce que vous la connaissez bien, Keiko, vous qui êtes l'épouse de François Couplan, et qui nous faites le plaisir d'un passage comme ça, surprise, dans cette émission où vous exprimerez aussi pour contribuer à dresser le portrait de votre époux, François Couplan, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours dans Entre nous soit dit, avec des archives. Et je vais vous faire écouter d'ailleurs une de ces archives tout de suite.
Allez.
Pour moi, traditionnel, ça ne veut pas dire qu'on vit à l'ancienne, mais qu'on pratique encore notre religion, nos cérémonies. Nous avons encore des danses rituelles, nous avons des terres sacrées, nous avons encore des hommes médecine. Nous continuons de transmettre le savoir des anciens, le savoir populaire, et pour moi, c'est surtout ça, être un Indien traditionnel. Moi-même, je ne dirais pas que je suis traditionnel, puisque je ne vis pas directement au milieu de mon peuple. Mais ça n'enlève rien à ce que nous sommes en tant que peuple. Nous faisons ce que nous avons à faire, par exemple les célébrations, comme l'anniversaire de Red Birds ou la fête nationale Cherokee. Pour ça, nous allons en Oklahoma quand c'est possible. Et puis, notre médecine, nous pouvons la pratiquer partout où nous sommes. Mais ça ne take away who we are as people. We do those things that we have to do. So celebrations like Redbird's birthday or national Cherokee holidays, we go to Oklahoma when we can. Our medicine, we can do that wherever we're at.
Il s'appelle Vic White et c'était en 1988 qu'il s'exprimait dans cette archive de la RTS.
Ah oui, c'est un jeune.
Un Indien Cherokee.
C'est un jeune. Mm-hmm. J'étais là-bas, ça fait plus tôt que ça.
C'était avant ça.
Ah oui, oui,
c'était
oui,
au territoire Cherokee.
Oui, c'était dans les années 70. Ouais.
François Couplan. Dans les années 70, vous partez aux États-Unis vivre des années là-bas.
Disons, je partais pas à vie, je partais pas, je partais pas
c'était
dans
pas
un
prévu
but précis.
À la base.
Ah, non, il y avait rien de prévu, non. Il y avait juste que je voulais quitter l'Europe. En fait, je voulais aller en Inde. Je voulais aller en Inde, mais comme j'étais pas sûr de revenir et que j'étais très attiré par le rock, qui était ma première grande passion, on va dire. Je voulais aller sur la côte ouest, voir le rock, puis finalement j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé la nature, j'ai trouvé les gens, j'ai trouvé des gens qui vivaient dans la nature, j'ai trouvé des Indiens aussi, effectivement, des traditions qui m'ont beaucoup apporté, ça c'est sûr.
Et des plantes, bien sûr. Alors, on va rembobiner encore quelques années avant votre enfance parisienne, car vous êtes né à Paris, tout près de la Tour Eiffel, donc vraiment
pleine
ville.
Pied de la Tour, on voyait la Tour Eiffel depuis depuis l'appartement de mes parents. Ouais.
J'aimerais que vous me parliez de votre maman. Votre maman qui était, citadine, parisienne, mais qui était aussi alpiniste.
Ben oui, c'est-à-dire qu'elle était fille de médecin et elle trouvait que la vie qu'elle menait en ville, c'était quelque chose d'assez étriqué, d'assez étroit. Et quand elle a eu 19 ans, elle a découvert la montagne à Chamonix, où à l'époque il y avait que deux hôtels, me racontait-elle. Elle a pris un guide, elle est partie en haute montagne, et elle est devenue complètement amoureuse de la haute montagne. Et chaque fois qu'elle avait un moment libre, elle allait dans le massif du Mont Blanc, principalement. Gravir tous les sommets, voilà. Et elle avait une relation avec la nature qui était extrêmement puissante. Et puis en montant jusque là-haut, parce qu'à l'époque on se faisait pas larguer en hélicoptère au sommet. Il y avait toute la marche d'approche. Il prenait le temps qu'il fallait prendre. Hein. Et donc il y avait plein de plantes. Et donc elle avait fait un herbier, tout ça. Elle connaissait les plantes. Voilà, quand elle a eu ses enfants, moi d'abord, ma sœur après, elle pouvait pas nous emmener gravir les sommets, mais elle nous emmenait. On avait passé toutes nos vacances dans le Beaufortin à Arèche. Ouais. Joli coin, encore plus à l'époque, il faut le dire. Et donc, elle nous montrait des plantes, on ramassait des fraises des bois, des champignons, des myrtilles et tout ça. Et c'était juste fabuleux, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était complètement normal. Mais j'étais très composite, c'est-à-dire que le côté parisien, pour moi, ne me gênait pas du tout. J'étais amoureux de la grande ville. J'étais, à 8 ans, je voulais devenir conducteur de métro. C'était ma grande passion. En fait, c'était ma première grande passion, avant même la musique, ouais. Le métro. le métro parisien. Et ouais, j'ai raté ma carrière, j'ai raté ma vocation.
Oui, pour le coup, voilà. Vous êtes au-dessus, là. Oui.
Ben, ouais, je fais autre chose. Mm-hmm. Je fais autre chose. Mais voilà, je pense que les enfants sont complètement prêts, ouverts à tout. Voilà, donc moi, j'avais deux pôles dans ma vie. Et je trouvais ça très bien l'un comme l'autre. Et puis, ben, par la suite, oui, ça a été beaucoup la musique. C'était la vie citadine très, comment je peux dire...
Très, très trash, hein, aussi, parce que vous étiez un groupe de
post-punk. Merci pour le terme, ouais, vraiment. Non, mais c'est pas faux. Ouais, ouais, non, mais je me défonçais.
Il y a eu de la défense.
Je me défonçais comme
eu...
une brute. On mm-hmm. était vraiment... Et puis la musique, c'était comme... c'est pas des milieux très clean. Ça a changé maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment pas clean du tout. Donc, on se faisait les pires coups et des machins comme ça. C'était grave. Donc, du coup, au final, j'ai fait une dépression nerveuse et...
Vous avez été viré du lycée?
Ah, j'ai été viré du lycée déjà, oui, oui, c'est vrai, oui, oui, ben pour un petit peu pour les mêmes raisons d'ailleurs, oui.
Trop dissipé.
Sauf qu'il y a eu mai 68 en même temps qui est venu là-dessus et je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que je sentais, voilà, les chevaux sauvages en liberté, là.
En vous qui galopez?
Ah bah oui, ça pour galoper, je savais pas du tout où ils galopaient, mais ils ont galopé au point qu'effectivement ça effrayait un petit peu tout le monde autour de moi, et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé par choix à la rue aussi, bon je me suis viré du lycée, puis après je me suis dit pouf, le monde est vaste, je vais voir ce qui se passe quoi, en gros.
Dépression, et puis vous partez, vous retournez dans les Vosges.
Ah dépression, oui, non, je suis pas parti tout de suite, mon père dirigeait un établissement thermal dans les Vosges, et ça c'était chouette, et là je m'y suis replié. Justement, j'ai eu la chance de rencontrer un vieux monsieur qui a 80 ans, quand j'en avais 16 à l'époque, hein, quand même. Il était botaniste, il faisait partie de la Société Botanique de France, mais avant il était instituteur à la retraite et il était poète. Donc botanique et poète, et il m'a appris la botanique à coups de sonnets classiques. J'en ai retrouvé quelques-uns là que j'ai publié dans la petite revue qui est sur mon site, ou c'est une lettre d'information où les gens peuvent s'inscrire comme ça. Et là récemment, j'en ai retrouvé quelques-uns et je les ai mis. C'est juste magnifique quoi. Je veux dire, c'est trop magnifique quoi. Apprendre la botanique comme ça, mais j'ai eu une chance dans ma vie, mais enfin pff, fabuleux.
C'est
quoi.
Le destin. François Couplan, c'était le premier contact vraiment avec les plantes. Après cette enfance où votre mère vous emmenait, vous montrait.
Rester ça. Mmh. Ah, c'est toujours resté de toute façon. J'étais boy scout. Bon, j'ai pas vécu qu'à Paris, j'ai vécu à Angoulême aussi. Où là, c'était chouette Angoulême parce qu'on prenait la voiture, on prenait la mobylette ou même on allait à pied. On sortait et on était dans des endroits que je pourrais pas qualifier de sauvages, mais quand même, il y a de l'espace. Vous savez, il y a plein de grottes. Puis c'est là aussi où j'ai eu des rapports avec. Vous savez, on n'est pas loin de la Dordogne, de nos ancêtres paléolithiques, de Cro-Magnon et tous ces machins-là. Je m'amusais à faire du feu. J'étais assez pyromane. J'avais une tendance un peu pyromane, j'adorais faire du feu avec tout, c'est vrai. Et dans des grottes, justement, comme ça, non, j'avais un rapport très très fort avec non seulement la nature, mais avec nos ancêtres, quoi, nos ancêtres paléolithiques qui vivaient dans ces environnements. Donc c'était vraiment très très fort, tout ça. Ça s'est construit, la chose qui m'a vraiment fait changer de direction, je dirais, c'est quand j'avais 12 ans, de me rendre compte que je vivais dans une société totalement hypocrite, où on me disait des choses qu'on ne faisait pas. Et ça m'a totalement bouleversé. Quoi.
Comme par exemple?
Comme par exemple, on allait à la messe, hein, on était des bons chrétiens, hein, et puis le prêtre nous fait tout un discours sur la charité chrétienne, la fraternité, nous a partagé avec les pauvres, ceux qui n'ont pas. Et à la sortie de la messe, il y a un clodo qui fait la manche, quoi. Et mon père refuse de lui donner de l'argent. Je lui dis, attends, t'as entendu ce qu'il a dit le curé? Et mon père lui dit, non, attends, je vais pas lui donner de l'argent, il va aller le boire, il va aller se saouler avec. Et puis, ouais, mais d'un côté, j'ai compris les raisons de mon père, bien sûr, évidemment, pourquoi pas. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'on a le droit de décider pour les autres, quoi. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Je veux dire, si on partage, on partage, quoi.
Quelques années plus tard, donc, c'est les États-Unis, ce séjour qui s'éternise, enfin, qui dure plusieurs années alors que c'était pas prévu comme ça.
Non, ça a duré 10 ans alors que j'étais venu pour 6 mois, quoi.
La rencontre avec les plantes hallucinogènes aussi, et c'est peut-être là le lien entre cette genèse de défonce, de punk, de vie citadine.
Punk avant la lettre, nettement.
De pré-punk, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et les plantes que vous connaissez maintenant, c'est les plantes hallucinogènes, en fait.
Ah ben alors, disons que ma première grande exploration, c'était de faire le tour de France des plantes hallucinogènes. Ouais, exactement.
C'était une exploration botanique pré-punk aussi.
Oui. Et puis, comment dire, atropisme tout à fait précis. Hein. Ça n'a pas bien marché, quoi. À part la datura, puis c'est des plantes qui sont dangereuses, quoi. Donc, j'ai pas trop voulu jouer avec. Non, j'ai toujours eu la chance de pousser les limites vraiment loin, bien loin, mais jamais au-delà de ce qui aurait été trop dommageable, du moins je pense, à mon état de santé.
Ça a l'air de fonctionner encore pas trop mal aujourd'hui, François Coupland. Ouais. Quelle est la première plante sauvage que vous avez dégustée?
Toute première, toute première. Oh, moi, je pense que ça a dû être les myrtilles ou les fraises des bois ou les framboises. Quand j'étais tout petit, puis les pissenlits, on allait ramasser les pissenlits au printemps. Donc voilà, c'était un trio ou un quatuor assez classique. Hein.
On peut manger les racines hein, aussi, les pissenlits.
Les
sans mauvais
jeu
de mots.
Par la racine, oui, ça c'est quelque chose que je pratique.
C'est quelque chose que j'ai appris dans votre livre.
Oui, c'est bon d'ailleurs. C'est bon. Oui. En fait, c'est une amie macrobiote qui est devenue l'une de mes élèves, d'ailleurs maintenant, 30 ans plus tard, et qui m'a fait découvrir ça. Elle faisait de la compote de pissenlit. Et ça, c'est une tradition, parce qu'elle était macrobiote, donc c'est tiré des traditions japonaises. Au Japon, comme je disais, ils mangent les plantes sauvages d'une façon complètement normale. Moi, j'ai découvert ça, le Japon, je crois que j'y suis allé pour la première fois en 2009, et j'ai découvert une société à laquelle je m'attendais absolument pas. Quoi, des gens
on a cette image du Japon, des villes très construites.
Hyper technologiques, et ce qui est vrai. Mais en même temps, des gens de tous azimuts, y compris les petites minettes avec leurs petits outfits, ouais, leur mini jupe de sortie spéciale pour aller dans les bois, pour aller vénérer l'arbre. On est allé avec Keiko, on a fait 10 kilomètres sous la pluie pour aller vénérer un arbre, enfin rencontrer en tout cas un arbre qui a 2500 ans, la petite île de Yakushima là. Et c'était plein de gens et des jeunes. Et des jeunes, et des gens qui manifestement pendant toute la semaine ont leur cravate, en col blanc et tout quoi. Et moi je trouve ça beau, ça m'émeut ce genre de choses.
C'est un peu comme vous quoi, citadin et en même temps amoureux de la nature et des plantes.
Ouais, il n'y a pas de contradiction.
Absolument.
Non, c'est bien.
Il n'y a pas non plus de contradiction entre écouter ce qu'on a écouté tout à l'heure, les chevaux sauvages, et écouter Jimi Hendrix.
Oh yes,
entre aimer les plantes et écouter Jimi Hendrix.
Yes, of course.
Purple Haze. Voilà, ça c'est un bon vieux Jimi Hendrix, comme on les aime, Purple Haze, et c'est vous qui nous proposiez de passer cette chanson, François
Coupland.
Oui,
c'est vrai, oui.
Hein, comme quoi on n'écoute pas que de l'ocarina quand on cueille des plantes, des musiques un peu planantes et new wave, on peut aussi écouter bien sûr Jimi Hendrix.
Ouais, il n'y a pas de différence, je veux dire, c'est transcendant, hein. c'est une musique transcendante.
Mmh.
Ça dépasse notre condition humaine, et c'est ce qui se passe dans la relation avec les plantes. On dépasse notre condition humaine, et c'est ce qu'on est ici pour faire sur Terre, c'est d'apprendre à dépasser notre condition humaine. Sinon, franchement, on s'emmerde dans la vie, quoi.
Voyons si la voix que vous allez entendre maintenant va vous transcender.
Lorsque l'on trouve des outils, aussi anciens soient-ils, ces outils sont toujours en grand nombre. Et ils sont en grand nombre correspondant à une demi-douzaine de types, par exemple. Ça signifie tout simplement que l'Australopithèque, enfin cet ancêtre, a essayé un certain nombre de formes d'outils, qu'il a essayé au fond des prototypes, puis qu'il s'est fixé sur un de ces types d'outils parce qu'il trouvait sans doute que c'était celui qui s'adaptait le mieux à la fonction à laquelle il le destinait. Et à partir de ce moment-là, il l'a enseigné, sans doute. Si bien que, même à 3 500 000 ans, ce que l'on trouve, c'est une véritable panoplie d'outils de cet ancêtre, panoplie d'une douzaine de types, donc, correspondant à une douzaine de fonctions. Et je crois que s'il y a ainsi choix d'un type et conservation de ce type d'outils, il y a enseignement d'une génération à une autre, il y a donc société, et on se trouve en face de ce que il ne faut pas avoir peur d'appeler une première civilisation.
Oui, mention spéciale pour la réalisation de John Hassell, qui est aussi de l'autre côté de la vitre, qui ouvre nos micros quand nous en avons besoin, François Coupland et Keiko, qui a réalisé cette archive de Yves Coppens, hein, dont on entendait la voix là. La musique qu'on entendait, c'est un groupe russe qui s'appelle Fourpa, qui reprend des chants traditionnels tibétains avec des percussions faites avec des ossements.
Notamment. Oh, bah, tant qu'à faire.
Voilà. Donc là, on est en plein dedans, hein.
D'abord, on est en plein dedans, ouais.
Là, c'était une voix jeune d'Yves Coppens, parce que c'était en 1974, cette archive-là.
Quand il a découvert notre ami Lucie, oui. Mais
il était aidé, Yves Coppens. Hein. Alors vous êtes docteur S sciences.
Ah ouais.
François Coupland.
Mais absolument.
Ethnobotaniste.
Oui, j'enlève le chapeau.
Vous avez un beau chapeau en cuir, d'ailleurs. On dirait un peu Indiana Jones. Mais vous êtes aussi docteur S sciences.
Je sais pas. Je connais pas.
Pourquoi pas. Alors votre thèse portait sur l'alimentation végétale potentielle de l'homme avant et après la domestication du feu au paléolithique inférieur et moyen.
En région méditerranéenne française.
Oui, c'était pas assez long.
Ouais, non, bah. Mm-hmm.
Pourquoi vous êtes tourné vers justement cette alimentation primitive, au fond, des premiers hommes ?
Mais c'est ce cher Yves Coppens qui voulait savoir ce que mangeait Lucie, en fait. Enfin, c'est une longue histoire, en fait. Quand j'avais 20 ans, avant d'aller aux États-Unis, j'avais déposé un dossier à la Fondation de la Vocation à Paris, Fondation Saint-Gerre-Polignac, qui devait donner des sous à des jeunes qui avaient un projet. Et moi, à 20 ans, hein, j'avais le projet d'emmener les gens dans la nature pour leur faire découvrir les plantes, pour expliquer à quel point c'était bien, leur faire goûter et tout, pour décrire des documents, voire des livres sur le sujet. Donc j'avais besoin de sous pour organiser mes ateliers, pour publier, parce que c'était très hyper précis. Hein, ils demandaient tout un budget et tout, j'avais tout ça, publier, pour faire de la pub, pour publier des petits opus sur les plantes et tout. Paf, j'avais été retenu Coppens faisait partie du jury. Mais vu que j'étais au fin fond des États-Unis, de la forêt américaine, quand il y a eu les interviews des candidats, je suis pas revenu.
Vous aviez autre chose à faire. Oui,
j'avais autre chose à faire. Mmh. Puis je l'ai su que plus tard, de toute façon, là, au fond des bois, je recevais pas mon courrier à l'époque. Et donc, Coppens, lui, a gardé le contact et m'a dit, bon, écoutez, je comprends un petit peu, mais prenez contact avec moi quand vous revenez. Et j'ai pris contact avec lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et puis il m'a dit, ouais, ça m'intéresserait bien de savoir ce que mangeait Lucie, et puis, vous savez, les les diplômes, ça fait pas de mal. C'est un bout de papier, certes, mais ça peut rendre service. Donc voilà, donc j'ai fait, partant de rien, en tant qu'autodidacte, j'ai fait l'école pratique des hautes études à Paris, avec comment dire, le directeur du laboratoire de Phanérogamy, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui était un vieux monsieur qui avait fait qui était botaniste, qui était taxonomiste, qui était ethnobotaniste, qui avait fait aussi de la, comment dire, une thèse de lettres classiques. Donc cette époque des gens qui avaient une, comment dire, une connaissance encyclopédique du monde, et c'était juste fabuleux, quoi, c'était extraordinaire, quoi. Puis après ça, il m'a retenu un petit peu plus tard pour me dire, bah, vous savez, vous pourriez passer un doctorat, ça fait bien sur votre carte de visite, et puis voilà, puis ça serait l'occasion de travailler dans le monde scientifique, quoi. Mmh. Donc voilà, pendant 5 ans, l'Institut de paléontologie humaine, j'ai bossé sur ma thèse avec des archéologues, une paléozoologue, une palynologue, un phytosociologue, anthracologue, enfin tout le machin, quoi. C'était pluridisciplinaire.
On savait même pas que ce terme existait.
C'était fabuleux, c'était vraiment très bien.
Il y a un terme d'ailleurs qui a été inventé pour vous, c'est ethnobotaniste.
Paléo-ethnobotaniste. Mm-hmm. Non, ethnobotaniste, ça existait. Bah, paléo-ethnobotaniste, ça existe. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, paléo-ethnobotaniste. Parce que, donc voilà, je me suis intéressé à ce que pouvait potentiellement, parce que j'ai aucune preuve, mm-hmm. et moi, ça ne me dérange pas du tout, mm-hmm. De ce que pouvaient manger nos ancêtres à différentes époques, en différents lieux, quoi. Mm-hmm. Et bon. C'est pas très surprenant, il suffit de recréer des ce qu'on appelle des paléo-environnements et d'aller chercher là-dedans ce qui est potentiellement comestible, avec une grande fracture, c'est celle de la domestication du feu. Mmh. On a quand même un certain nombre de grands marqueurs dans l'humanité.
C'est ce qu'il disait dans cet archive, hein. Il disait dès que du moment qu'on trouve des outils, c'est là et que les outils sont multipliés. C'est là le début d'une civilisation, au fond.
Voilà, alors il y a les outils, mais le feu, après le feu, c'est une explosion. Et puis la dernière, enfin l'explosion sur laquelle on vit encore à l'heure actuelle, c'est l'agriculture, quoi. Il y a 10 000 ans, qui est un processus. C'est pas la révolution néolithique comme on le dit parfois. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pas seulement, comment dire, un changement économique, un changement pratique, concret, qui nous a donné la possibilité de dominer la nature. Mais c'est avant tout un changement de mentalité concernant notre place par rapport à la nature. Et c'est ça qui est dramatique.
Reste encore aujourd'hui dramatique.
Ah ben oui, mais et ça l'est de plus en plus, parce que c'est l'être humain a ce désir de pouvoir que maintenant il peut assouvir de tellement de façons possibles que juste c'est pas... Oui, on en a l'illusion, bien sûr, parce qu'au final, si on se pose des questions par rapport au devenir de l'être humain, il est évidemment lui-même en tant qu'espèce beaucoup plus sombre que celui du devenir de la nature, bien évidemment.
Ça, c'est on ne fait que passer.
Ouais, enfin moi c'est pas mon point de vue. Hein. Mmh, j'ai une autre façon de concevoir les choses, mais par contre ça m'inquiète pas du tout qu'on continue à vivre en tant qu'espèce ou qu'on disparaisse en tant qu'espèce. Moi ça m'affecte pas forcément tellement, mais je trouve qu'on a quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait. Hein. On le fait, mais on le fait pas très rapidement. On le fait pas très rapidement. Puis surtout ce qui m'ennuie, moi, beaucoup, c'est de voir mes contemporains se taper sur les doigts, très fort, avec un marteau très brutal, et se plaindre. Alors que c'est eux qui tiennent le marteau, vous voyez? Et ça, c'est gênant. Et puis, je vois, je veux dire, à force, je commence à avoir compris un certain nombre de processus, parce que je suis passé par là. Je veux dire, je suis pas différent du tout des autres. Voilà. Quand je vois ça et que je sais il suffirait peut-être de pas forcément grand chose pour changer ça. Bah, j'ai envie de faire ce que je fais, quoi. Mmh.
Vous avez dit une phrase assez marquante, hein, qui est dans la première graine mise en terre, il y avait le germe de la bombe atomique.
Oui. Mmh. Oui, bon, il faut l'expliquer.
C'est ce qu'on vient de dire, en gros.
C'est ce qu'on vient de dire. C'est pas auto-explicite. Mmh.
C'est cette histoire de on a l'illusion en tout cas de contrôler et d'avoir le pouvoir quand on commence l'agriculture.
Puis, comme disait Yves Coppens tout à l'heure, l'outil, je veux dire, c'est le moyen que l'être humain, qui est quand même faible, a pour prendre le pouvoir sur les autres éléments de la nature. Mmh. Bon, et ben avec l'agriculture, à partir du moment où on stocke eh bien, forcément, on va voir, certains vont avoir envie de venir s'approprier ce que vous avez stocké. C'est normal, on va dire, c'est humain. Mmh. Donc, pour ça, il suffit qu'ils développent un outillage, un armement en l'occurrence, mais un outillage destiné à tuer, plus performant, qu'ils soient plus nombreux, hein, ce qui vient avec le fait d'être sédentarisé, de cultiver, donc ça permet d'avoir une population humaine plus développée, plus importante. Et donc vient un moment où on est trop nombreux, vient un moment où le désir de pouvoir personnel et en tant que groupe fait qu'on a envie de s'approprier ce qu'ont les autres, bah, voilà, on y va, quoi.
Bon, on
y va,
pour autant, on ne peut pas non plus laisser tomber complètement l'agriculture et tous aller manger des plantes sauvages dans la nature.
Ah, vous avez le sens du raccourci, mais je sais bien qu'on est... Eh oui, je sais bien qu'il faut aller vite. Oui, mais enfin, c'est pas l'idée, quoi. Non, mais enfin, c'est pas l'idée.
On peut faire un genre de compromis entre de l'agriculture.
C'est pas un compromis, c'est pas un compromis. Non, non, moi, je suis pas pour les compromis. Non, compromis, ça va vite vers la compromission, non. Bon, un équilibre, une harmonie, je sais pas, une compréhension des choses qui fait qu'on se dit que finalement, pourquoi est-ce qu'on va manger tout ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on mange du foie gras? Vous croyez que c'est bon, le foie gras? Non, c'est un symbole de statut. C'est un symbole de statut.
Oh, il y a d'autres gens qui vous diront, moi, je trouve ça très bon.
Oui, mais il y a des tas d'autres choses, végétales, par exemple, qui sont tout aussi bonnes, qui sont très bonnes aussi. Seulement, la viande, c'est devenu un symbole de statut. Il faut bien comprendre, ça c'est une chose qui est importante à dire, c'est que au Moyen-Âge, là, il y a eu encore de nouveau un grand marqueur, un grand tournant dans notre relation au monde. Parce que la classe supérieure a voulu se démarquer de la classe inférieure par l'habitat, par l'habillement, par la langue et par l'alimentation. Et au niveau de l'alimentation, eh ben, c'est manger de la viande.
Bon, en même temps, vous l'avez dit, nos ancêtres, ils mangeaient aussi de temps en temps de la viande. Ils mangeaient des mammouths.
Attendez. C'est intéressant, c'est bien de discuter avec vous, parce que vous mettez le doigt sur les choses. Bien sûr, manger de la viande, c'est très bien. Ce qui est le problème, c'est de valoriser, dans un contexte donné, tel ou tel objet, produit. Vous voyez? Mm-hmm. Et d'y mettre beaucoup de valeur. Ce qui fait que, à ce moment-là, parce que manger de la viande, pourquoi pas manger de la viande? Mais, c'est pas quelque chose dont on a besoin. C'est pas un besoin aussi important que celui de manger des végétaux qui nous apportent toutes sortes de micronutriments qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Mais, toujours est-il qu'à partir du moment où un produit comme la viande est valorisé par rapport au végétal, à partir du moment où des végétaux exotiques comme les haricots verts, par exemple, sont valorisés par rapport aux orties qui sont données par la nature, parce que les haricots verts, il faut les cultiver. Manger des haricots verts, c'est-à-dire je suis quelqu'un de bien, parce que c'est compliqué à cultiver. Donc il faut quelqu'un pour les cultiver pour moi. Donc moi, je suis riche, je suis quelqu'un de bien. Voilà. Tandis que si vous mangez des soupes d'orties, c'est-à-dire moi, je suis pauvre, je ne peux que qu'accepter ce que me donne directement la nature, sans que ce soit transformé, vous voyez. Donc après, eh bien, les paysans, ils montent en ville, ils deviennent ouvriers, tout le monde se met à vivre comme les élites, et maintenant, à travers le monde, j'étais en Malaisie, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire cette étude sur la consommation de végétal en Malaisie, il se passe exactement la même chose. Les gens veulent manger de la viande, qu'ils aient mangé du poulet infâme et produit en batterie, parce qu'ils ont... Voilà, c'est la viande
moins cher,
pas
chère,
on est d'accord. Voilà, et de délaisser ce qu'on appelle l'oulam, c'est-à-dire les feuilles qu'on va cueillir dans la forêt, et qui nous apportent, qui sont bien meilleures du point de vue nutritionnel, mais pour une question de statut, c'est tout. Et chose intéressante, l'oulam, on se met à le remanger quand on est d'un statut très élevé.
Mmh. C'est un peu ce qui se passe ici.
Il y a des gens qui ont beaucoup de sous, et ils peuvent dire, moi j'aime l'oulam, vous voyez. Donc il ne faut pas oublier ça, nous vivons de symboles, nous mangeons des symboles, et c'est ce qui nous pourrit la vie.
Sur ce, on va écouter les musiciens du Nil. Je ne suis pas sûre qu'ils se posent toutes ces questions-là. Ils jouent de la musique,
très bien,
viennent d'Égypte.
Je pourrais vous en reparler.
En tout cas, c'est bien. Le titre de cette chanson, c'est Yafaraoule. Ça veut dire « aux fraises ».
Aux fraises.
Ah!
Bah bien sûr, ça parle d'amour aussi.
Moumtaz,
ça parle
Moumtaz.
De fraises. Ah bah parce que vous parlez égyptien en plus. Excellent. Très bien. Bah, vous êtes plein de surprises, François Coupin, après avoir vécu chez les Cherokees.
Je me suis occupé des musiciens du Nil avec mon ami Alain Weber qui avait monté cette troupe en Égypte. Mm-hmm. Et donc on les a trimballés à gauche, à droite. Et c'était... Ah oui, ça fait partie des grands moments de mon histoire.
Très
ça.
Comique ce groupe de musiciens, les musiciens du Nil, en plus des musiciens absolument excellents et qui jouent là des morceaux traditionnels. Hein,
j'ai appris à jouer de la musique égyptienne avec eux aussi. Ouais.
Mm-hmm. Car vous êtes aussi musicien, ne l'oublions pas, vous avez été rocker, pré-punk, enfin, comment appeler ça?
Et j'écris de la musique, Keiko peut en témoigner. J'ai eu une crise de création musicale, là, il y a quelques temps, j'ai écrit une dizaine de morceaux.
Bon, on vous réinvitera pour le disque alors. En attendant, parlons cuisine.
Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il fallait un petit peu parler de la sauvegarde des plantes, et de tout ce qui est un petit peu en forêt, parce que y a un véritable sabotage qui se fait en ce moment, surtout sur le plateau des Aravis. Et je trouve que il y a un manque d'éducation. Mais vous savez, l'éducation, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la connaissance. Ça doit être ouvert à tout le monde. Et moi, c'est un petit peu le regret que j'ai. C'est que la connaissance, ma foi, il faut que tout le monde l'ait. Et je crois que quand on aura beaucoup plus de connaissances envers la nature, on aura beaucoup plus de reconnaissance et on saura mieux la respecter. Et
les gens cueillent n'importe quoi.
Cueillent n'importe quoi, arrachent n'importe quoi. Moi, j'ai une propriété, nous avons une propriété paternelle en haut. C'est une grande propriété sur le plateau des Aravis. J'ai d'ailleurs mes cousins genevois qui ont un chalet en limite, puisqu'on était c'était un partage familial, on était de moitié. Mes amis Ruchonnet. Moi, je suis un petit peu outré quand je vois des gens descendre de la montagne avec des petits sapins. Savent-ils que couper un sapin, c'est couper un arbre qui mettra 30 ans pour grossir? Alors ça, c'est quand même... les gens savent-ils que cueillir un pied de rhododendron pour le redescendre en plaine, pour le faire repousser en plaine, il a 100% de chance d'échec? Alors laissons la nature en montagne, où elle est, elle se trouve bien. Je crois, moi, je suis... Je reste persuadé que quelqu'un l'a fait comme ça, il faut la respecter.
Vous avez un grand sourire, François Coupland, en entendant votre copain Marc Vera qui s'exprimait là en 1989.
Il est extraordinaire.
On n'avait pas assez de vos coups de gueule, François Coupland, ils ont fallu un autre, celui de Marc Vera, célèbre cuisinier.
Pardon ?
Célèbre cuisinier qui a cuisiné beaucoup si avec employé, les plantes.
Ouais, ah oui, on a bien travaillé, bien rigolé ensemble. Ouais.
Mm-hmm. Pourquoi vous rigoliez tellement en l'écoutant ?
Mais parce que je l'adore, parce qu'il n'arrête pas de dire des conneries. Il dit des trucs qui sont complètement justes, puis des trucs. Heureusement qu'il fait de la cuisine et boit de la botanique, quoi.
Parce que c'est pas vrai là ce qu'il a dit.
Si, bien sûr. Non, si, c'est vrai, mais c'est la façon dont il dit, quoi.
Il est tout à fait révolté par ces gens qui vont cueillir
n'importe
quoi.
Oui. Mais d'un autre côté, quand même, il faut quand même savoir que l'environnement qu'on a à l'heure actuelle n'est pas un environnement naturel. Il n'y a pas de nature en Europe, ça n'existe pas, ça n'est pas vrai.
Comment
je ne dis pas de lui. Est-ce que je dis, est-ce que dit Marc, c'est juste, bien évidemment, c'est pas pour ça.
Faut
que
pas
je
aller
rigole.
Couper les sapins.
Non,
dans
c'est
forêt.
Pas ça. Mais ouais, qu'on n'aille pas couper les sapins. Il a bien raison. D'abord, ce sont des épicéas, ce sont pas des sapins. Depuis le temps que j'essaye de lui dire, mais c'est pas ça, mais c'est que il faut quand même admettre que la culture paysanne dont il se revendique a quand même détruit la nature depuis 10 000 ans, quoi, et continue encore à le faire. Alors, qu'on le dise, c'est quand même des fois pas mal, qu'on admette qu'on n'a pas de nature sauvage en Europe, ok, c'est très bien, et ça veut pas dire, nom d'un chien, que il faut rien faire du tout, et comme il dit, il a raison, quand on a de la connaissance, on a de la reconnaissance. Seulement, il faut prendre les choses vraiment à la base, vraiment loin, quoi. Il faut vraiment arriver à remonter au-delà de nos racines néolithiques qui font partie de notre culture et qui nous empêchent de voir les choses correctement. La nature, nom d'un chien, c'est la friche. La nature, c'est les mauvaises herbes dans son jardin. La nature, c'est les plantes qui poussent toutes seules là où vous allez passer la débroussailleuse et ce genre de truc-là. C'est ça, la nature. La nature, c'est pas les jolies Alpes vaudoises, valaisannes ou ce que vous voulez, avec des petites vaches, avec des clochettes au cou et puis des edelweiss dans
mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, François Couplan? Parce que vous êtes en train de nous dire, là, que c'est trop polissé, c'est trop nettoyé en Suisse? Et en Europe?
Vous le dites bien, vous le dites bien. Donc, je réponds à votre question, vous allez me poser la question. Ça va être très simple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rien!
Faut arrêter de couper
grand
des
silence.
Arbres.
Non, mais faut arrêter d'arracher les mauvaises herbes systématiquement. Faut arrêter de débroussailler là où c'est pas de la peine, quoi, je veux dire. Après, qu'on se laisse pas envahir par la nature, c'est son droit, bien évidemment. Mais je veux dire, on utilise une énergie de fou, et surtout dans nos régions où on a les moyens de gaspiller de l'énergie, pour qu'il n'y ait pas un petit brin d'herbe qui pousse là où on veut pas qu'il soit. Cette notion de pouvoir sur la nature de façon systématique et est inutile. Ça me révolte effectivement. Parce que c'est émotionnel. Donc ça me fait ressortir des émotions parce que c'est émotionnel. Genre, quand on dit ça fait sale, mais qu'est-ce que ça veut dire, nom d'un chien? Et vous avez des herbes qui poussent, pensez à ça quand même. Vous avez dans votre jardin, vous avez des mauvaises herbes qui viennent. Ces mauvaises herbes, c'est la nature qui s'exprime. Si vous les laissez, ces mauvaises herbes, qu'est-ce qui va se passer? Votre jardin, ça va devenir une friche. Une friche, c'est quoi? Vous allez avoir des églantiers, des pruneliers, vous allez avoir des plantes qui viennent, qui se développent, qui envahissent, qui nourrissent les oiseaux, qui nourrissent...
Oui, mais le beau rosier, il pousse plus.
Et ben voilà.
Tant pis pour les beaux
rosiers. C'est un choix. Pouf! Alors, je vais vous dire, parce que, quand même, oubliez pas qu'après votre églantier, vous allez avoir des pins, vous allez avoir des bouleaux. Après les pins bouleaux, vous allez avoir des chênes, des hêtres, vous allez avoir une forêt. Vous allez avoir une forêt qui ne sera pas une forêt primaire, mais une forêt qui sera une forêt sauvage.
Mais tout le monde ne veut peut-être pas une forêt dans son jardin.
Ah ben, c'est un choix. C'est un choix. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, comme disait fort justement Marc, quand on a la connaissance, on peut voir les choses d'une façon différente. Parce que là, si on ne veut pas d'une forêt dans son jardin, évidemment, de toute façon, il ne s'agit pas de ça, mais il n'y a pas que des jardins. Il y a quand même plein d'endroits, je veux dire, toutes les forêts, là, sont gérées, les forêts. Et les forêts, elles sont même plus rentables à gérer, maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas décider d'avoir de la nature? Mais encore faudrait-il se mettre d'accord sur ce que c'est que la nature? Comprenez bien que pour la plupart des gens, moi je vois les gens qui viennent nous voir à Fribourg, là, qui viennent de Lausanne, qui viennent de Genève et tout ça, ça veut dire « Oh, que la nature est belle chez vous !» Je leur dis « Mais attendez, elle est où la nature ?» Il n'y a rien de naturel, c'est un paysage totalement transformé par l'homme. La seule nature, c'est les mauvaises herbes qu'on laisse pousser dans notre jardin. Donc me dites pas qu'on pourrait pas faire autrement, surtout vu ce que coûte l'agriculture.
Ça coûterait moins cher, en fait.
Ça coûterait moins cher. Le jardinier protecteur du paysage, attendez, ça va, c'est une notion surannée, ça n'existe plus maintenant. Il faut penser les choses d'une façon nouvelle. Comme on dit, et là vous allez voir, passer un nouveau paradigme, on adore ce terme. Non mais c'est vrai, concevoir le monde d'une façon différente, on vivrait mieux. On aurait moins de soucis. Alors quand même, c'est arrêtons de se faire pam, pam, pam sur les doigts avec le marteau.
Et de se plaindre juste après.
Vous
aimez le chocolat?
Oh, j'adore le chocolat, ouais, j'adore.
On a un chanteur ici qui s'appelle Jonas, qui chante le petit carré. Pas forcément toujours joli ce qui se passe avec le chocolat. Encore un coup de gueule.
Ça ne tourne pas rond quant à tes racines. On t'associe toujours à la zone alpine. C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer. Petit carré, quelles sont tes origines? Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici. Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine? Une histoire cachée tout au fond des abîmes. L'Atlantique se souvient peut-être d'une époque où l'ébène s'obtient pour des indiennes. En fait, tissu helvétique de belles fabriques. Puis l'ébène se troque et contre la graine magique. Désolé si je croque dans les tabous, mais le monde est tabou depuis le temps qu'on les scroque. Par vanité, petit carré, tu es métisse, enfant d'un crime contre l'humanité. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, petit carré. J'aurais pu m'en tenir au premier couplet, quand le lait et le cacao s'accouplaient pour la première fois, mais l'histoire se répète. Autre contexte dans un autre endroit. Cette fois, on reste en Afrique de l'Ouest. La course au fric ne lâche pas plus de lest. On a varié les pratiques et quant aux lois, une éthique d'apparence, vu que l'humain a des droits. Au port, les entreprises amassent les graines. Y a un prix fixé et des intermédiaires. Alors ça débite les enchères et au début de la chaîne, vu à combien ça achète, on se débrouille à peine. Et ces enfants dont on fait trafic, fausse promesse aux parents des pays limitrophes. Les planteurs payent si peu qu'ils ne s'en tirent pas. Ça paye un brin d'espoir dans ces paires de petits bras. Petit carré.
Ça c'est Jonas, voilà. C'est, on n'aurait eu que le début de la chanson, mais chanson
oh,
qui.
On mangera plus de chocolat de la même façon.
Encore un coup de gueule, ah là 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 là. On va changer nos habitudes alimentaires avec cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, François Couplon, Keiko aussi. Vos derniers livres, Confitures inattendues, recettes aux fruits, fleurs et légumes, c'est paru chez Fave, c'est une nouvelle édition. Et puis Étonnante plante à cultiver vous-même aux éditions du Belvédère. Et puis tous vos autres livres et vos stages aussi qu'on trouve sur www.couplon.com.
Oh là là.
Il n'y a plus rien à dire.
Oh là là, on va se revoir.
Merci beaucoup. Bon retour chez vous dans votre campagne organisée. Nature organisée.
Mais néanmoins très agréable.
Merci aussi à vous qui nous écoutez. Merci à John Hassel qui était en régie et à Nathalie Schoenberg pour la programmation musicale juste après les informations. C'est Détour. On va à Cuba. Il est 15h sur la première.